Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. On la disait moribonde, elle ne cesse de se réinventer. La presse bruisse ces temps-ci de nouveaux projets éditoriaux, lesquels semblent répondre à une forte attente, si l'on en juge, par exemple, par le succès de la campagne de financement participatif d'Hebdo, nouveau magazine papier prévu pour début 2018. Dans cette effervescence, les médias d'opinion occupent une place de choix. La rentrée a vu apparaître un nouveau mensuel, L'Incorrect, ouvertement positionné à droite. En janvier, Le Média, un pur player imaginé par des proches de Jean-Luc Mélenchon, proposera un JT quotidien. Et c'est aussi en janvier que le site AOC doit être lancé sur le modèle des pages débat des quotidiens. On ne peut que se réjouir de voir de nouveaux titres apparaître, mais on peut aussi se demander pourquoi maintenant. Est-ce parce que certaines opinions ont du mal à trouver leur place dans la presse classique qu'il devient nécessaire de leur inventer de nouveaux espaces? Mais n'est-ce pas contradictoire avec la critique adressée aux journalistes à qui il est reproché de négliger les faits au profit des commentaires? Alors y a-t-il vraiment besoin de nouveaux médias d'opinion? Eh bien, c'est la discussion que nous allons avoir ce soir avec trois des membres de notre club. Aude Lancelin, Brice Couturier et Sylvain Bourmeau. Ils étaient déjà là vendredi dernier. Ils reviennent donc tous les trois. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste. J'essaie à chaque fois que vous êtes là de vous présenter un petit peu différemment. Ça tombe bien, vous publiez un livre d'entretien avec Alain Badiou, Éloge de la politique, ouvrage publié dans la collection Café Voltaire chez Flammarion. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir.
Le tour du monde des idées, c'est sur France Culture tous les jours, du lundi au vendredi à 11h53. On peut également vous lire vos chroniques dans Le Point. Et puis Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Vous, c'est la suite dans les idées de 12h45 à 13h30 le samedi sur France Culture. Et vous êtes désormais, là aussi je peux changer un petit peu ma présentation, président d'AOC, projet que vous lancez notamment avec notre autre camarade de France Culture, Raphaël Bourgois. AOC, j'imagine que tout le monde vous demande si vous lancez dans la production de vins et de fromages.
Nous ne l'excluons pas.
C'est quoi AOC ?
Non, AOC tout simplement.
Ça veut dire quoi déjà ?
C'est l'acronyme d'analyse, opinion, critique, qui sont trois genres journalistiques, trois genres de textes qu'on a envie d'associer, qu'on trouve parfois effectivement dans les pages débat d'un journal. Donc AOC, c'est le projet d'un journal quotidien en ligne et qui publiera chaque jour trois articles, une analyse, une opinion et une critique. Voilà, ça ne veut rien dire d'autre que ça, simplement c'est assez commode comme appellation.
J'imagine que vous allez avoir quelques candidatures pour contribuer à ce nouveau projet, donc AOC. Est-ce que, par exemple, Aude Lancelin ou Brice Couturier auraient vocation à rejoindre les contributeurs? Quelle est la ligne que vous avez envie de donner à ce projet?
La ligne, on verra ce qu'elle est quand, au bout de quelques temps, on se retournera et on regardera derrière nous ce que tracent, ce que dessinent les articles qu'on a publiés. Moi, une ligne éditoriale, j'ai jamais su par avance la dessiner. Je ne sais pas faire. Je sais, en revanche, qu'il faut espérer que ça dessine quelque chose.
Pour Aude Lancelin et pour Brice Couturier, oui, pourquoi pas?
Oui, bien sûr, puisque, en fait, ce qu'on veut publier, ce sont des textes de format qu'on trouve de plus en plus rarement dans la presse, c'est-à-dire des textes assez longs. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à nos lecteurs, mais de l'ordre de 10 à 12 000 signes. Ce sont les plus longs des formats qu'on puisse trouver dans les pages opinion, quand Le Monde fait éclater un peu les colonnes pour donner de la place à quelqu'un. Donc ce sont des textes un peu longs, et on veut que ces textes soient écrits par des gens qui, au fond, remplissent deux conditions. D'une part, et des compétences sur le fond, connaissent le sujet dont ils parlent, donc c'est le cas de Brice et de Aude. Ça dépend des sujets, on va pas leur demander, ça dépend des sujets, mais sur certains sujets, je pense qu'ils ont des compétences. Et d'autre part, qu'ils aient, et ça j'ai pas de doute, quel que soit le sujet, une compétence d'écriture. Parce que l'important, c'est de donner aussi du plaisir de lecture. Il s'agit pas de textes d'experts. Je ne me reconnais pas dans ce mot, et je pense beaucoup d'auteurs auxquels on va faire appel ne se reconnaissent pas dans le mot d'expert, parce qu'ils sont pas là pour venir certifier des choses. Ils ne sont pas là appelés à la barre pour venir valider, donner un avis scientifique. Ils sont certes experts dans leur domaine, mais ce n'est pas comme experts qu'ils écrivent, c'est comme auteurs. Et ce site a pour ambition intellectuelle de réhabiliter la notion d'auteur qui est malmenée et de réhabiliter la notion d'éditeur, d'intermédiaire. Je pense que ce site vaudra aussi, je le pense vraiment, par sa capacité à choisir ses auteurs, à faire le tri dans les informations qui nous paraissent importantes et, au fond, à choisir la bonne personne sur le bon sujet au bon moment. C'est ça l'idée.
Alors, on ne va pas passer la soirée à se faire des mamours les uns les autres, à dire du bien comme ça. Mais qu'est-ce que vous pensez simplement de ce type de projet, de ce type d'initiative, ou de l'ancien Brice Couturier, ou de Lancelin?
Ça peut être que sympathique, évidemment, compte tenu de la crise actuelle de l'offre. Parce que c'est une crise de l'offre ce que vit la presse actuellement, parce que les lecteurs ils sont là, ils attendent des choses et on a le sentiment que ces grands groupes du CAC 40 qui possèdent les médias ne leur donnent pas. Donc c'est une bonne chose évidemment qu'il y ait cette floraison de nouveaux médias.
Une crise de l'offre notamment sur la question des analyses et des opinions justement.
Mais oui, absolument, il y a des opinions qui n'ont pas droit de citer dans ce pays, dans les grands, dans les gros médias, dans ceux qui ont une véritable puissance de feu.
C'est ce que vous avez raconté d'ailleurs dans votre livre, Le Monde Libre, oui. Où vous estimiez que voilà, votre licenciement de l'Obs, ça s'appelait l'Obs, était lié au fait que les penseurs que vous faisiez intervenir dans le magazine n'étaient pas tout à fait en lien avec la vie.
Moi et d'autres personnes, de très nombreuses personnes, à commencer par les sociétés des rédacteurs du groupe Le Monde tout de même, c'est quand même l'essentiel. Donc, disons qu'il y a quand même un double problème, à vrai dire, qui se pose, parce que des pure players se montent sur des niches intellectuelles, par exemple, très pertinentes, c'est excellent. Mais il faut quand même qu'on ait conscience ce soir dans cette discussion que ça ne réglera pas le problème global des médias dans le pays. Il y a vraiment deux problèmes. Il y a un problème qui est celui de l'appartenance de ces grands médias constitués au groupe du CAC 40, appartenance qui s'est accentuée sous le quinquennat de François Hollande. Donc je rappelle, tout le groupe Libération, L'Express, Bolloré, tout ça s'est fait sous François Hollande. Donc il y a ce mouvement-là qu'il faut contrôler, et ça ne pourra se faire que politiquement, à un moment donné, par des lois, par une législation. Donc autant se dire tout de suite que ça ne se fera pas sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et puis, il y a la question de retrouver quand même un écosystème plus sain, une diversité, faire repartir les débats d'idées, notamment à gauche, parce que c'est surtout la gauche intellectuelle qui est en crise. Voilà, et ce sont deux problèmes, deux questions à mener de front.
Brice Couturier, est-ce que vous partagez ce constat de l'impossibilité, en tout cas de la difficulté pour certaines idées, pour certaines opinions, aujourd'hui, d'exister dans le cadre des supports classiques de la presse? Ou bien est-ce que la diversité est suffisante pour vous aujourd'hui pour les accueillir toutes?
Il est vrai qu'on n'est pas dans la situation que j'ai connue dans ma jeunesse, où il y avait une presse d'opinion très flamboyante et très diverse, où il y avait des journaux de droite, des journaux de gauche, d'extrême droite. Ils sont à peu près tous morts. Peut-être aussi parce qu'on a vécu à une certaine époque, mettons à partir des années 80, une espèce de dépolitisation de la société, et que ces titres sont morts simplement parce que les enjeux idéologiques des années 50 et 60 étaient étouffés. C'était étouffé. Il est probable aujourd'hui qu'effectivement il y ait une politisation, un besoin de débat idéologique assez profond. On le voit bien par le fait qu'il y a une espèce de course aux extrêmes, à droite comme à gauche, et qu'effectivement, il y a à nouveau besoin d'exprimer ce genre d'opinion. Bon, moi, c'est pas ce qui m'importe le plus, je vous dirais. Moi, ce qui me paraît aujourd'hui surtout essentiel, c'est cette espèce de parallèle qu'il y a à faire entre la montée du populisme qui s'attaque aux partis politiques traditionnels et qui pense et qui rencontre un écho très profond dans le public, qui pense à presque de 80% dans notre pays que les partis politiques sont nuls, ne servent à rien, etc. On connaît la chanson, ce qui est pas complètement infondé, bien entendu. Et puis, par ailleurs, la montée d'un populisme venu de la nouvelle, des nouveaux médias numériques contre les médias institutionnels, disant ils ne servent à rien, ils sont tous du même avis, c'est la pensée unique, etc. Il y a un parallèle à faire malgré tout. Bon, on peut se réjouir, on ne peut pas ne pas se réjouir que cette presse traditionnelle papier, qui est en réalité moribonde, que personne ne lit plus. Moi, je prends le métro et le train et l'autobus tous les jours, et je suis pratiquement le seul à lire un journal tous les matins sur des centaines de gens que je peux croiser. Donc c'est très très frappant le fait que la presse n'est plus lue que par par les journalistes, en réalité, la presse papier, les
non,
quotidiens
mais
en particulier.
Tous ces journaux, pardonnez-moi, juste une parenthèse, tous ces journaux ont des sites internet, comme vous
voilà.
savez. Et les articles circulent énormément de cette façon-là et pèsent sur l'opinion publique.
Oui, parce que la presse papier traditionnelle a dû s'aligner sur les sites internet. Et d'ailleurs, de plus en plus, ils ont deux formes d'intervention, deux formats d'articles et deux types d'informations différents selon qu'ils interviennent sur internet ou qu'ils interviennent sur le papier. Parce qu'ils ont bien été obligés. Moi aussi, une autre chose qui me frappe sur le plan simplement économique, c'est un truc que Libération a vu avant tout le monde il y a pas très longtemps. Il s'étonnait du fait que, au fur et à mesure que les journaux périclitent et qu'on fait des plans de licenciement, les indemnités de licenciement des journalistes servent à créer des nouveaux sites. Et Mediapart a été créé, on sait, par Plenel et Mauduit quand ils ont quitté Le Monde avec une enveloppe. Rue 89 a été créé par des anciens de Libé. Slate a été créé par Colombani et Éric Le Boucher.
Bah, tant mieux, non ?
Oui, d'accord, mais vous allez voir ce que... Et puis Atlantico a été créé par un mec de LCI.
C'est la destruction créatrice, ça devrait
alors...
vous plaire. Ça devrait vous plaire,
parce que sauf que la suite de cette histoire, comme le racontait fort bien Libération dans cet article, c'est que ces mêmes sites, quand ils ont du succès, sont rachetés par les grands groupes de presse. Au grand bénéfice de ceux qu'ils ont créés. On le souhaite à tous ceux qui ont créé. Mais vous voyez, c'est espèce de façon dont le serpent se mord la queue. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les grands groupes audiovisuels et de téléphonie mobile rachètent des titres pour les mettre gratuitement en ligne sur leur téléphone. Du coup, ils tuent les journaux. Comme ils tuent les journaux, ils licencient les journalistes. Comme les journalistes ont envie de continuer à travailler parce qu'ils savent le faire, ils créent des sites internet et ces sites internet sont rachetés par les grands groupes. C'est quand même une histoire un peu inquiétante.
Bon, Sylvain Bourmeau, vous qui êtes passé par Libération, je ne sais pas si c'est avec vos indemnités de départ de Libération que vous avez créé AOC, mais en tout cas, ce que vous annonce Brice Couturier, c'est qu'à un moment donné, vous allez être racheté par un grand groupe.
Non, c'est pas du tout l'idée, parce que le projet éditorial d'AOC est volontairement modeste. C'est un projet qui est très ambitieux intellectuellement. J'espère qu'on va être à la hauteur, mais c'est un projet modeste au sens où on va utiliser Internet pour le contraire de ce à quoi il sert habituellement aux grands groupes, et dont vient de parler Brice Couturier. C'est-à-dire qu'Internet a servi principalement aux grands journaux à passer de 300 000 exemplaires vendus, par exemple pour Le Monde, à 8 millions de lecteurs sur Internet. Et donc, le débat qui traverse les rédactions aujourd'hui, de tous les grands journaux de la planète, c'est est-ce qu'on fait un journal pour nos lecteurs traditionnels, ceux qui achetaient des exemplaires et qui sont aujourd'hui des abonnés numériques, par exemple, 200 000, 300 000, 400 000 personnes, ou est-ce qu'on fait un journal pour notre audience gratuite sur Internet? Et là, c'est en millions, voire en dizaines de millions de personnes que ça se chiffre. C'est pas le même journal qu'on fait dans les deux cas. On ne propose pas la même chose, on ne propose pas la même offre éditoriale. Et du coup, les journaux sont un peu perdus. Moi, je pense qu'Internet permet, à l'inverse, de manière quasiment rétro-futuriste, de revenir à l'âge d'avant les masses médias. Et le projet éditorial d'AOC, c'est celui d'un micro-média, c'est-à-dire d'un média qui peut être à l'équilibre avec 10 000 abonnés. Au fond, ça ressemble à une revue du 19e siècle qui va chercher des auteurs, va se préoccuper de la qualité des textes, va construire non pas une audience mais un public, comme il y a un public au théâtre, comme il y a un public de certaines maisons d'édition, etc. Donc ce sont des choses qui se construisent peu à peu. Donc je pense que je ne suis pas dans cette même logique qui amènera le projet à être racheté. C'est un projet qui, j'espère, pourra vivre dans cet écosystème-là. Je voudrais revenir sur la question de l'opinion. Je ne crois pas du tout que l'on vive dans un pays où des opinions n'aient plus du tout droit de citer, ne paraissent pas dans les journaux. Je vois une grande variété d'opinions. Le problème, pour moi, n'est pas là. Le problème est que ces opinions, d'abord, elles doivent, quand elles s'expriment dans des journaux, se couler dans des formats qui sont souvent trop courts, qui ne permettent pas véritablement des argumentations, des analyses sérieuses. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ce sont des opinions qui sont amenées à réagir à des formes de problématisation de l'actualité qui sont déjà données par les journalistes. Et c'est toute la limite que je vois et que j'ai pointé à l'époque dans un article dans Le Monde au fact-checking. Parce qu'on dit notre problème avec la réalité, c'est de vérifier les détails, les informations. Ok, c'est très important, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que on aura beau fact-checker tous les discours de Marine Le Pen, si on n'est pas capable politiquement de dire que la manière dont Madame Le Pen, par exemple, pour prendre cette personne-là, problématise la question de l'immigration ou problématise la question du chômage, etc., ne va pas. Si on n'est pas capable, non pas de vérifier les réponses, mais de remettre en question les questions, eh bien alors on n'y arrivera pas. Et ce qu'on va faire avec AOC, c'est donner la parole à des auteurs qui sont capables et qui ne font que ça. C'est-à-dire, les chercheurs, dans la vie, ils posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Donc, il faut arrêter d'aller les chercher pour publier leurs réponses. Il faut publier leurs questions. C'est ça dont on a besoin. Donc, je ne crois pas que ça s'appelle des opinions. Ça s'appelle de l'analyse, ça s'appelle de la problématisation. Et je pense qu'on a un besoin incroyable de revivifier l'espace public avec ces façons de déplacer les questionnements, de renoncer à la grille médiatique traditionnelle.
Il y a une nécessité d'un rééquilibrage peut-être après un excès, enfin je ne sais pas si on peut parler d'excès, Aude Lancelin et Brice Couturier, mais de fact-checking et de l'idée que le journalisme peut-être devait être avant tout constitué de faits vérifiables et que finalement l'opinion était quelque chose de plus accessoire.
Mais vous comprenez bien que c'est une conséquence en fait de ce rachat de toute la presse par les grands groupes, parce que l'idéologie de la neutralité, si vous voulez, elle est pratique aussi pour les journalistes, pour se protéger eux-mêmes. Vous courez moins de risques en fact-checkant qu'en faisant une charge sur la politique, par exemple, je ne sais pas, fiscale du gouvernement actuel. Donc si vous voulez, l'idéologie de la neutralité et de toute façon un leurre. On sait très bien que tous les médias, tous les journaux, toutes les télévisions véhiculent une opinion et qu'elles le font de façon d'autant plus pernicieuse qu'elles le dissimulent. Je voulais réagir à ce qu'a dit Sylvain Bourmois à l'instant. C'est formidable qu'il y ait effectivement des nouveaux pure players pour des chercheurs, des universitaires qui creusent des thèmes pointus, mais ça ne réglera pas le fait que le peuple, lui, il est livré entièrement à l'heure actuelle à des grands médias mainstream, hein, des chaînes comme BFM qui modèlent l'opinion de façon extrêmement puissante.
Le peuple et de l'autre.
Je termine juste sur cette question.
Les élites, ça ne marche pas comme ça.
Je termine sur cette question. Il faut quand même qu'on ait bien conscience, que les gens aient ça en tête, parce qu'on croit qu'on a toujours... Les Français projettent une image d'eux-mêmes extrêmement valorisante, un peuple encore libre, révolutionnaire, etc. Bon, prenez le classement international de Reporters sans frontières 2017, le plus récent de la liberté de la presse à travers le monde. La France, elle est seulement 39e. Elle est dans les profondeurs du classement. Elle est entre la Slovénie et le Burkina Faso. Et pourquoi je citerai simplement l'organisme international sur ce point. Là, ce n'est pas mon opinion. Voilà ce que dit l'organisme international. Sur cette question. Pourquoi la France est si basse dans le classement de la liberté de la presse ? Parce qu'elle est entre les mains, je cite, d'une poignée d'hommes d'affaires ayant des intérêts extérieurs au champ des médias qui ont fini par posséder la plus grande majorité des médias privés à vocation nationale. Jamais on n'avait connu une situation pareille en France depuis la libération, c'est un fait. Et quel que soit l'intérêt intellectuel. Pour répondre à ce que disait Sylvain, je ne minore pas du tout l'intérêt de ces sites alternatifs qui creusent certaines questions intellectuelles avec des chercheurs, parce que c'est mon quotidien. Mais il faut savoir que il y a une autre bataille culturelle à mener dans la masse aussi.
Brice Couturier, vous qui avez fait beaucoup de bruit il y a quelques mois de cela en publiant un article consacré au parti des médias qui vous a valu un certain nombre d'interviews. Est-ce que vous, qui êtes un journaliste qui fait des analyses, qui exprime des opinions, vous vous êtes parfois senti contraint dans les espaces dans lesquels vous pouviez vous exprimer, vous êtes senti contraint parce que vous ne pouviez pas tout dire, ou bien est-ce que ces analyses-là, vous vous sentez quand même libre de les exprimer, quel que soit le support?
Mais c'est précisément le paradoxe qui ressort des propos d'Aude Lancelin, c'est qu'on est dans une situation, effectivement, elle a raison de le souligner, tout à fait paradoxale en France, où les principaux médias sont propriétés de gens qui n'ont rien à voir avec le métier des médias. Des vendeurs d'avions de combat, qui sont donc très liés à l'État pour leurs commandes publiques et qui donc ont toujours tendance à aller dans le sens du gouvernement en place, quel que soit leur orientation par ailleurs, ou des gens aussi, alors là ça s'explique de manière beaucoup plus logique, des gens qui ont envie simplement d'avoir des contenus disponibles à mettre sur leur téléphone portable et qui par conséquent rachètent des journaux pour pouvoir les mettre gratuitement en ligne. Et ça on comprend déjà un petit peu mieux la logique, et qui n'est pas une logique politique. Mais mon expérience personnelle dans plusieurs journaux, c'est que quelle que soit l'identité du patron, quels que soient ses intérêts ou sa ligne politique, ça n'a absolument aucune influence sur le milieu des journalistes, qui est extraordinairement homogène, qui, comme chacun sait, ne penche pas à droite, n'est-ce pas? Audelancelin ne peut difficilement me contredire. On a fait avec cette radio France Culture des descentes dans les grandes écoles de journalisme à l'époque des élections présidentielles de 2012. Il y avait des élections à blanc qui nous précédaient et qui donnaient toujours la gauche et l'extrême gauche très 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 en avance, et pratiquement il n'y avait pratiquement pas de vote pour la droite.
Donc c'est moins un problème de propriétaire que de sociologie du métier.
Oui, c'est largement le problème. C'est que, si vous voulez, nous autres journalistes, nous sommes transformés à une certaine époque en maîtres penseurs, en grands confesseurs, en donneurs de leçons, parce qu'effectivement nous avions perdu ce qui faisait notre originalité et notre atout principal, qui était l'accès à l'info. Aujourd'hui, cet accès à l'info, elle est universellement acquise. Tout le monde l'a sur Internet. Donc, il fallait bien qu'on trouve quelque chose d'autre. Alors, on est devenu, on aurait pu devenir des experts. Moi, c'est ça que je vois dans le projet d'AOC, par exemple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de la presse, il est du côté de l'expertise, du côté de gens qui savent écrire, qui savent mettre en perspective les faits, ce que évidemment les réseaux sociaux ne peuvent pas faire, ils n'en ont pas les moyens. Et que, effectivement, c'est pour ça que j'ai été un moment dans un journal qui s'appelait Le Monde des Débats, dont j'étais un des rédacteurs en chef. C'est qu'effectivement, au monde des débats, on essayait de faire le lien entre le monde de l'université, les sciences de l'homme, le CNRS et le grand public. C'était assez étroit comme créneau, c'est qu'on s'est cassé la figure, on a fait faillite. Mais moi, je pense qu'il reste aujourd'hui un créneau vraiment important de mise en perspective par des experts de l'information brute telle qu'elle est donnée sur Internet, sans aucune crédibilité, parce que le faux, le semi-vrai et le mensonge se mélangent allègrement sur ce réseau.
Alors, Action et d'Audelancelin et de Sylvain Bourmeau. D'Audelancelin.
Non, c'est pas compliqué, je suis évidemment aux antipodes de la vision développée par Brice Couturier. Pour ne prendre qu'un point, parce qu'il y aurait tellement de choses à lister, vous dites que le milieu journalistique est majoritairement de gauche.
Mais ça, c'est pas vrai.
Non, mais il faut s'enlever cette représentation Brice Couturier de la tête. C'est vraiment un verrou actuellement même, je dirais. Moi, j'ai travaillé dans une rédaction supposée être de social-démocrate. On pouvait être journaliste au service économie et être totalement filloniste, trouver le programme de François Fillon le plus pertinent pour la présidentielle. On pouvait être ami personnel d'Alain Finkielkraut. On pouvait trouver toutes sortes de mérites à Brice Hortefeux. On n'avait jamais de problème. Mais il y a une chose que vous n'avez absolument pas le droit aujourd'hui dans le paysage médiatique de trouver, c'est que la moindre qualité que ce soit à Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Non, mais c'est la vérité. Alors après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? La situation, elle, au fond, elle était exactement la même aux États-Unis il y a quelques années. C'est-à-dire, les patrons de presse jouaient sur l'ambiguïté. Mais oui, tous les journalistes sont de gauche, ce sont des libéraux sur les questions d'immigration, sur les questions de mœurs, etc., machin. Et la vérité, c'est que de même qu'en France, tous les journalistes anticapitalistes, tous ceux qui remettaient en question le système global, la racine du système, tous les radicals, eh bien, eux, ils ont été tous placardisés, licenciés, éradiqués, etc. Et nous avons vécu la même chose dans ce pays. Alors, il faudrait s'entendre sur la définition de ce qu'est un journaliste de gauche, si vous voulez.
Sylvain Bourmeau. Je ne vois pas du tout les choses de cette façon, de gauche, de droite, encore une fois, si on ne sort pas... Je pense pas du tout qu'il faille dépasser cette distinction gauche et droite. Le clivage, je l'ai souvent dit ici, est extrêmement important. Simplement, cette manière très politique de regarder l'actualité nous interdit, je trouve, souvent de comprendre, parce que au-delà de leurs différences, la gauche et la droite ont bien trop souvent la même façon de problématiser des questions, et c'est cette façon qu'on trouve dans les médias. Problématiser pour dire blanc d'un côté, noir de l'autre, mais moi, j'ai envie de déplacer les questionnements. Ce qui me semble inquiétant, c'est effectivement cette situation que décrivait Audelancelin de la concentration dans la presse. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. La France est dans une situation déplorable et on a besoin de lois anti-trust, anti-concentration. Ça, c'est un travail qu'on peut faire comme citoyen pour essayer de pousser en ce sens-là. Mais après, comme journaliste, on peut ne pas se contenter de ça. On peut aussi, par exemple, prendre des initiatives, créer des médias. On n'est pas obligé d'être salarié à l'intérieur des médias. C'est les plus belles choses que j'ai fait dans ma vie, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, c'est collectivement de créer des médias. Alors on peut se dire, oui, mais votre média, il ne va pas être très, très influent comparé à TF1, il va être tout petit. Certes, mais enfin, je pense que c'est mieux que rien. C'est d'autant plus mieux que rien que ce qu'on peut aller chercher, c'est de remettre un petit peu de verticalité dans cet espace public qui est horizontalisé, de revaloriser des articles qui vont essayer de prendre de la hauteur, de faire référence autant que possible, de retrouver des moments où il y avait des repères. Il fut un temps où, certes, le monde ne touchait pas autant de gens que le journal télévisé de 20 heures, mais les choix éditoriaux du journal télévisé de 20 heures étaient d'une certaine façon dictés par les choix éditoriaux du monde. Ça marchait comme ça, le monde du journalisme. Donc on peut aussi espérer reprendre un peu la main sur ce type de choses. Il y a une autre chose très très importante que je voudrais aborder, c'est celle finalement qui a été abordé vite fait, du dégagisme à l'égard des journalistes, du parallèle qu'il y a entre le dégagisme politique et le dégagisme des médias. Moi, je suis inquiet de ces mouvements et en même temps, je peux comprendre un certain type de critique qui s'exerce à l'endroit du journalisme de la même façon qu'à l'endroit de la politique. Parce qu'au fond, il y a des causes communes. On a un problème de politique professionnelle qui produit cette défiance à l'égard de la représentation politique. Mais je pense qu'on a un problème du journalisme professionnel. Ce journalisme qui produit de la fausse neutralité dont parlait Aude Lancelin tout à l'heure, dont l'idéologie est cette soi-disant objectivité. Ce journalisme, on forme beaucoup les jeunes journalistes dans les écoles de journalisme à ça. Et ces journalistes sans couleur, sans odeur, qui est rejeté, et on comprend pourquoi, par le public. Et moi, je suis un peu inquiet de la situation dans laquelle on est, où d'un côté, on a un retour en arrière, une régression qui voit des mouvements politiques vouloir avoir leurs propres organes de presse, hein, et que ce soit M. Macron du côté d'En Marche ou M. Mélenchon avec la France Insoumise, et de l'autre, un réflexe corporatiste des journalistes qui brandissent leur carte bleu-blanc-rouge professionnelle pour dire « Ah, mais nous, on est des vrais journalistes ». Eh bien, moi, je dis une chose, juste une chose, je termine là-dessus. Le journalisme, c'est pas qu'un métier. Le journalisme, depuis la Révolution française, c'est une fonction sociale qui doit être assumée par un certain nombre de citoyens et pas seulement par les journalistes professionnels.
Alors justement, c'est le cœur du projet que vous avez légèrement abordé, sans tout à fait le nommer, qui est ce média, le média qui a été présenté officiellement il y a quelques jours, qui devrait être effectif à partir du mois de janvier. C'est un projet qui a été initié par des proches de la France Insoumise, notamment l'ancienne directrice de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. À quoi ça va ressembler ce média? Est-ce que ce sera un média avant tout citoyen? Est-ce que ce sera un média affilié directement à une idée, à une famille de pensée politique? Eh bien, écoutez ce à quoi pourrait ressembler leur premier JT.
Bonsoir, il est 20h, bienvenue sur le journal de Canal Fi. Tout d'abord, des nouvelles de notre auguste leader. Après une nuit sans problème particulier, notre bien-aimé Jean-Luc a pris un solide petit déjeuner. La journée qui suivit fut égale aux précédentes, pertinente, efficace, moderne et lumineuse. International, au Venezuela, tout va plutôt bien, rien de particulier, les gens sont contents, on ne va pas y passer des heures. Corée du Nord, pareil. Économie, vivement 2022, et puis un dossier de fond développé par la rédaction. Pourquoi les 17 députés de la France Insoumise sont-ils tous aussi brillants? C'est la question qu'il semble légitime de se poser après ces quelques mois de débats parlementaires. Alors, parcours, formation, influence, nous vous dirons tout sur ces Robins des Bois de la République. Enfin, dans la partie magazine de ce journal, les pages histoire, diététique et culture, Staline, n'a-t-on pas un peu grossi de traits? Quinoa, saveur et perspective révolutionnaire? Et l'air du peuple ne mérite-t-il pas le prix Goncourt? Et pour finir notre débat du soir, nous inviterons Jean-Luc et Mélenchon qui débattra sur l'importance du pluralisme et de la diversité des points de vue dans la politique française.
Alors, j'imagine que vous l'aurez compris, il ne s'agit pas du vrai JT qui sera proposé, c'est une parodie, c'est mieux que ça, c'est une auto-parodie, c'est-à-dire c'est un petit film qui a été fait pour le lancement, justement, de Le Média, enfin pour l'annonce du lancement du Média, qui est plutôt assez malin, parce que ils prennent à leur compte les critiques qu'on commence à formuler, qui ne vont pas manquer d'apparaître lorsque ce Média sera véritablement visible sur Internet, pour dire, bah voilà, attention, on va pas faire de la propagande comme en Corée du Nord. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que de voir un média comme celui-ci annoncer son apparition à partir de janvier prochain, Brice Couturier, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît plutôt inquiétant?
Il a l'air ravi.
Écoutez, moi, j'ai connu dans les années 80 une époque où le Parti communiste avait un journal qui s'appelait L'Humanité, où le Parti socialiste avait un journal qui s'appelait Le Matin.
Je vous signale que L'Humanité existe toujours.
Excusez-moi, ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Non, mais c'est pas gentil, surtout qu'en plus, on a été en collaboration avec eux il y a quelques années, et ça s'est très bien passé entre France Culture et eux, et que j'ai même publié un article, figurez-vous, sur la situation politique italienne dans l'humanité. Oui, que je sais que ça existe. Donc, il y avait l'opinion. Enfin, bref, il y avait une presse d'opinion qui était liée organiquement à des partis politiques. Enfin, dans le cas du Matin, c'était un petit peu moins évident que dans le cas d'Humanité, mais enfin, il y avait une presse d'opinion. Alors, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui que les partis politiques retrouvent des médias qui leur soient affiliés et qui reflètent la ligne du parti ? Ben, mon Dieu, nous verrons bien. On ne peut pas dire que l'Humanité soit dans une très grande santé. C'est dommage, parce que c'est un journal qui avait toujours un très bon contenu sur le plan culturel, en tous les cas. Je ne sais pas. J'avoue, j'attends de voir.
On pourrait peut-être se dire que, enfin, peut-être que certains diraient, bah, finalement, le Figaro a bien.
Le Figaro
reflète bien, les idées de la droite,
ah
Libé
bon
reflète bien les idées de la gauche, du hollandisme.
Non, Libé, le Figaro n'appartient pas aux Républicains. Il peut critiquer parfois.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait considérer que certaines formations politiques n'ont pas besoin d'avoir leur propre journal parce que leurs idées sont suffisamment présentes dans la presse telle qu'elle existe déjà.
Non, mais c'est logique. Au fond, c'est tout à fait logique que ces mouvements cherchent à avoir un média. Internet, en particulier, a permis à tout le monde de devenir un média. Un média personnel, mais aussi un média de personnes morales pour les entreprises. Je veux dire, McDo a un média, la Fnac a un média, pourquoi la France Insoumise n'aurait pas de média ? Je veux dire que tout ça participe de l'espace public. Après, il faut juger à la qualité des productions éditoriales qui se retrouvent dans ces médias. Je crois qu'il ne faut pas faire de procès d'intention.
Le jugement, il va être biaisé.
Ça n'a pas de sens de faire un procès d'intention.
Si c'est le bulletin paroissial de la France Insoumise, ce média crèvera. Enfin, voilà, ce sera un de nombreux sites quelconques sur Internet. Donc ça ne peut pas être ça. Vous partez du principe que le média est complètement inféodé à la France Insoumise. Bon, je tiens à préciser qu'il le conteste même, qu'il revendique.
Bien sûr, hein. Et c'est ce qu'on entendait justement dans cette petite séquence sonore. C'est-à-dire qu'ils le prennent par l'humour, mais ils le contestent.
Absolument. Maintenant, bon, le problème, c'est, je pense que si la France Insoumise lançait une chaîne d'épicerie, il y aurait aussi une polémique nationale. Parce que le problème, en fait, c'est la France Insoumise. C'est-à-dire que c'est là où on l'a bien repéré, tout le monde, qui est le véritable foyer aujourd'hui de l'opposition à un parti extrême.
Il y a eu les mêmes réactions quand En Marche a annoncé un projet de média.
Oui, mais alors attendez.
Il y a eu les mêmes réactions.
Macron est élu président de la République jusqu'à preuve du contraire. Là, on est dans une logique de minoritaire. Victime, disent-ils, de campagnes de dénigrement de très grande ampleur, et donc c'est un mode d'autodéfense. On n'est pas dans la problématique d'un pouvoir qui imposerait son média. C'est pas tout à fait.
C'est un parti. La même chose. C'est un parti.
Je vous laisserai poursuivre après, mais oui. Une petite question. C'est-à-dire, pour quelles raisons il faudrait douter, on va dire, des informations qui sont celles produites par des journalistes de la presse qui appartient à des grands groupes, et pour quelle raison cette suspicion-là, elle ne devrait pas exister quand c'est un média qui est lié à la France Insoumise.
Mais vous avez raison, cette suspicion, si vous voulez, elle doit peser sur tout le monde.
D'accord.
Mais absolument, enfin, évidemment, il faudra être très vigilant, comme pour les autres, sur l'indépendance véritable de ce média. Mais je tiens quand même à vous rappeler qu'on est un petit peu en train... Bon, Bruce Couturier citait l'exemple de l'Humanité à juste titre. Mais on est en train de redécouvrir un peu la Lune. Parce que, par exemple, moi, j'ai entendu pendant des années le fondateur de l'Obs, Claude Perdriel, le fondateur côté financier, dire qu'il avait, dans les années 80, donc constitué son stock d'abonnés en faisant des mailings aux adhérents du PS, des mailings de centaines de milliers aux abonnés, en allant directement piocher dans le stock des adhérents du PS. Voilà. Donc on est en train de, si vous voulez, alors évidemment l'OFS n'en a jamais fait une légion d'honneur, évidemment, et tout ça est un peu resté non dit, mais enfin tout le monde le sait, en même temps que c'était cette sociologie-là qui correspondait à ce journal. Par ailleurs, Pour ce qui est de mener des combats culturels, il faut savoir que la France insoumise, il y a quand même des gens qui regardent aussi les exemples étrangers. Bon, il y a un exemple extrêmement intéressant quand même, c'est celui de l'Espagne, bien sûr, de ce qui s'est passé autour des indignés et de la Puerta del Sol. Parce que là-bas, il y a quelqu'un, Pablo Iglesias, qui a vraiment pensé cette affaire de conquête médiatique. Et si vous regardez ces textes, il y a quelques petits textes publié en français, chez Indigène, par exemple, il le dit explicitement. Si les médias ne viennent pas à toi, si les médias te dénigrent, deviens toi-même le média. Voilà. Donc, il y a une idée sous-jacente, évidemment, de bataille culturelle. Quand les forces sont aussi écrasantes, quand l'ensemble des médias, chez nous, CAC 40, on dit médias, Wall Street aux États-Unis, sont comme ça, à la botte du gouvernement, il faut se poser des questions radicales.
Brice Couturier.
Bah écoutez, si les médias étaient à la botte du gouvernement, on n'essaierait pas de nous faire croire que le budget de 2018 est un budget pour les riches et les 100 familles, et les 200 familles. Non, ça, franchement, j'y adhère pas du tout. Au contraire, moi, je pense que le parti des médias est férocement antilibéral et que c'est une des raisons pour lesquelles on assiste à cette flambée de propagande contre le gouvernement et contre les mesures fiscales qu'il essaye de prendre pour que les investissements reviennent un petit peu et que l'économie redémarre. Ça prouve rien que cette campagne qui a l'air orchestrée tellement elle est unanime, me prouve que le parti des médias existe bel et bien et qu'il est très majoritairement anti-libéral.
Attendez, si elle est orchestrée, elle est orchestrée comment? Parce que alors moi personnellement, j'ai pas été contacté. Hein, alors que
écoutez, quand
moi non plus.
Non, mais il y a pas évidemment, c'est pas un grand complot. Moi, j'adhère pas aux théories du complot, mais simplement il y a un milieu. Ce milieu est homogène. Il a une idéologie. Il vote très majoritairement du côté que j'ai dit et il y a des sondages qui le prouvent. Audelancelin, qui ont été menés par Télérama de façon évidente.
Pardonnez-moi, juste une petite question. À votre avis, il a voté quoi en 2017, ce parti des médias?
Il n'a pas voté pour Macron, contrairement à ce que vous
essayez. Vous pensez vraiment?
Non. Et il a aussi au deuxième tour. Au deuxième tour, il a voté pour Macron.
C'est pourtant une certitude, vous savez.
Au deuxième tour, bien sûr qu'il a voté pour Macron. Il y avait le choix, vous croyez?
Sylvain Bourbeau.
Non, je parlais du premier tour, naturellement.
Moi, je voulais dire que je suis aussi gêné devant... finalement, l'idée de parti des médias que devant l'idée de médias des partis. Les deux me posent problème parce que, au fond, elles accordent beaucoup trop d'importance aux partis. Peut-être qu'on peut inventer des médias qui se définissent autrement qu'en relation avec les partis politiques. Et je pense que notre responsabilité collective dans la société civile, tous ceux qui sont soucieux d'endosser une part de la fonction journalistique qui nous incombe, comme citoyen, je ne dis pas que tous les citoyens ont envie de le faire, mais ceux qui ont envie de le faire n'ont pas nécessairement envie de le faire dans des cadres politiques partisans. Loin s'en faut, surtout à une époque où ces cadres politiques partisans sont en train de s'effriter, de s'effondrer, et ne constituent plus des repères intellectuels.
À nouveau parti, nouveau média.
Donc je pense
qu'il y a une recomposition.
Mais avant
cours, là aussi.
De parler de parti, essayons de discuter d'idées, de fond. Il y a de quoi faire avec l'actualité. Elle est compliquée à comprendre. Je pense que c'est ça la priorité, surtout.
Bon, AOC, ça démarre quand?
Ça démarrera courant janvier. Et on peut d'ores et déjà s'informer sur l'état d'avancée d'AOC sur la page Facebook d'AOC.
Et bien voilà, cette page de publicité vous était offerte par le Club des Idées du Grain. Merci beaucoup à tous les trois, Sylvain Bourmeau, Brice Couturier et Aude Lancelin, d'avoir participé à cette discussion. Si vous voulez la poursuivre un petit peu, poursuivre la réflexion, je vous renvoie, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, vous le savez, à Politique, que nous avons consacré il n'y a pas longtemps au lien entre le journalisme et le pouvoir. C'était en compagnie de Géraldine Mühlmann. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, je le rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs, pour le Club des Idées du Grain, ce sera au bar Le Bel Air, à la maison de la radio. Il suffit d'entrer par l'entrée principale. Vous pourrez assister au Club des Idées et gâteau sous la cerise à la dispute avec vous, Arnaud Laporte. Vous serez présent tous les vendredis. Hein.
Avec Olive dans le cocktail. Ça, c'est une l'image que vous voulez, mon cher Hervé. Effectivement, on y sera pour les émissions cinéma et série. Ce soir, ce sera série, hein, dans 3 minutes, dans la dispute. Demain, politique.
Demain, politique, on va parler des élus locaux et en particulier des maires. Videmaire.com, c'est le titre que nous avons choisi pour demain. Notre
invité,
ce sera Laurence Lemouzy.
Eh ben moi aussi, je serai à la radio demain, figurez-vous, Hervé, puisqu'on enregistre une nouvelle session de masterclass demain après-midi au studio 105, avec évidemment quatre artistes qui viendront s'exprimer. Il y aura Jacques Bonafé, il y aura Sonia Vidal-Atherton, il y aura Philippe Catherine, il y aura Cédric Clapiche. C'est de 14h à 20h, en gros. Vous pouvez vous inscrire encore, il y a quelques places sur le site maisondelaradio.fr. Je crois qu'on a tout dit pour la promo, c'est bon ?
Ouais, c'est pas mal là.
Bon, 19h, passé de quelques secondes, les titres de l'actualité avec Anne Fauquemberg.